Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de l'Union Populaire, ancienne porte-parole d'Attaque, enseignante chercheuse et auteure du livre « Le bloc arc-en-ciel » aux éditions La Découverte. Bonsoir.
Bonsoir.
Aurélie Trouvé, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de votre engagement. Vous avez présidé ATTAC avant de devenir sa porte-parole. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour l'altermondialisme et qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, ce qui m'a amené à militer il y a déjà 20 ans, dans le mouvement altermondialiste, c'est vraiment cette idée qu'il fallait changer le système. C'est un moment où le néolibéralisme était absolument triomphant. Les idées néolibérales, c'est-à-dire les idées que le grand marché, les multinationales, etc., vont aller dans le sens du bien-être général, voilà, pour faire vite. Et du coup, pour contrer ça, l'idée du mouvement altermondialiste, c'était il y a de l'espoir, un autre monde est possible, un autre monde est nécessaire. Et on s'est battu contre ce néolibéralisme et ses institutions d'ailleurs, tout ce qui promeut la dérégulation des marchés, l'hégémonie de la finance. D'ailleurs, un de nos mots d'ordre, c'était désarmons les marchés financiers.
Et voilà, vous avez eu le sentiment à ce moment-là de faire bouger les lignes?
Sur le plan des idées, en tout cas, puisque à l'époque, par exemple, on était sur ATTAC s'est créé sur l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Pour dégonfler à la fois la finance et puis pour faire en sorte aussi de dégager de l'argent, par exemple pour la solidarité internationale, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et en fait, cette idée qui apparaissait complètement révolutionnaire à l'époque, et quelque part marginale, a été ensuite portée dans les institutions et même proposée par la Commission européenne, quoi. Donc, ça, quand même, nos idées ont fait du chemin, de la même façon que la bataille contre l'évasion fiscale, qui n'était quasiment pas à l'agenda à l'époque il y a 20 ans et qui aujourd'hui est un vrai sujet. Même si, j'ai envie de dire, si on a gagné sur les idées, on n'a pas gagné sur le plan, des politiques concrètement mises en œuvre. Il y a toujours pas de taxe sur les transactions financières, il y a toujours pas de lutte efficace contre l'évasion fiscale. Et donc c'est aussi moi pour ça que je pense que pour combattre ça, pour un autre monde, pour essayer de changer de système, pour les justices sociales, environnementales et fiscales, il faut des mouvements sociaux d'ampleur. C'est ce dans quoi je me suis investie pendant 20 ans, bénévolement d'ailleurs, j'étais militante. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de quelque part de gagner les institutions, de conquérir les institutions et d'avoir un autre gouvernement, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je m'implique. J'ai fait ce choix de quitter, la responsabilité d'Attaque parce que cette association, elle n'est pas alignée sur tel ou tel candidat à la présidentielle. Donc j'ai fait le choix de quitter la responsabilité d'Attaque pour m'engager sur le plan politique et du coup en faveur d'un candidat Jean-Luc Mélenchon et d'un programme L'Avenir en Commun, parce que c'est ce qui me paraît le plus cohérent et avec ce que j'ai toujours porté depuis 20 ans, c'est-à-dire une transformation profonde, écologique, sociale et démocratique.
Aurélie Trouvé, est-ce que vous pouvez nous parler de ce Parlement de l'Union Populaire que vous présidez et qui a été créé il y a quelques jours? C'est un mouvement qui porte donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Quel est son rôle? Qui en fait partie?
Alors, le rôle, c'est d'abord d'élargir les soutiens à Jean-Luc Mélenchon pour cette présidentielle, mais aussi pour les législatives, voire l'après, c'est-à-dire de renouveler, d'enrichir, d'élargir finalement ce qu'était avant la France insoumise, d'aller bien au-delà. Et dans ce Parlement, en fait, on a la moitié de personnes qui sont issues de la France insoumise, des militants, des élus, tous les élus parlementaires aussi, par exemple. Mais il y a la moitié, 100 personnes, qui sont des personnes qui ne s'étaient jamais... ne sont jamais inscrits dans la France insoumise, qui sont des écrivaines, des responsables de lutte sociale, des anciens responsables d'associations, de syndicats, etc. Issus des luttes, beaucoup d'artistes aussi, et des militants issus des quartiers populaires également. L'idée étant que Ben finalement, il faut rassembler ces différentes luttes. Ce que moi j'appelle le bloc arc-en-ciel, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle le bloc arc-en-ciel, qui dit qu'il faut réunir finalement le rouge des traditions syndicales, communistes, voilà, le vert des traditions écologistes, le jaune des insurrections populaires pour la démocratie, type les gilets jaunes, le violet du féminisme, le multicolore aussi des luttes antiracistes, contre les violences policières, etc. Et donc, c'est toutes ces luttes-là contre un même système, en fait, un système capitaliste financier et ses rapports de domination. Donc, c'est toutes ces luttes-là qu'il faut rassembler pour espérer aussi être majoritaire et pouvoir emporter des élections et former un gouvernement qui représente cette colère contre les injustices et le désir d'un autre système.
Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont déjà publié le programme L'Avenir en Commun. Est-ce que le Parlement de l'Union Populaire va enrichir ce programme ?
Tout à fait. Alors, il y a une dizaine de plans qui découlent du programme de l'Avenir en Commun qui vont être publiés au fur et à mesure du mois de janvier. Par exemple, un plan sur la relocalisation, etc. Et donc, du coup, les parlementaires, entre guillemets, les membres du Parlement de l'Union Populaire s'impliquent dans la construction de ces plans-là et des livrets thématiques qui vont paraître dans les semaines à venir. Et puis il y a une autre fonction encore du Parlement, c'est de dialoguer avec le candidat Jean-Luc Mélenchon. Et on a commencé dès la première séance il y a une semaine, la première séance du Parlement, nous étions tous réunis et donc nous avions un dialogue avec Jean-Luc Mélenchon pendant un certain temps avant son meeting. Je dois dire aussi qu'il a une certaine capacité d'absorption et d'articulation des idées qui font que on espère pouvoir nourrir cette campagne et nourrir aussi ce qui va porter pendant ces prochains mois.
Aurélie Trouvé, on entend souvent dire que la France est de droite, que la droite a gagné la bataille culturelle. Vous dites exactement le contraire. Les idées de gauche, pour vous, sont majoritaires en France ?
On le voit d'abord, souvenez-vous des sondages sur les gilets jaunes au moment du mouvement des gilets jaunes qui portaient vraiment les idées de justice sociale et fiscale. Ce mouvement avait une très grande majorité de la population dans les sondages qui s'avérait sympathisante de ce mouvement-là. Et régulièrement, il y a des sondages qui paraissent. Est-ce que, par exemple, vous êtes pour une hausse nette du SMIC de 200 euros ? Est-ce que vous êtes pour taxer les plus riches, etc. ? Et à chaque fois, c'est une très grande majorité de la population qui se dit pour ces idées-là, pour ces politiques-là. Vous avez vu aussi que dans les sondages, les premières aspirations des Français, c'est le pouvoir d'achat et la lutte contre la crise écologique. Donc, pour moi, il est faux de penser que les Français seraient majoritairement racistes pour plus de sécurité qui passe par plus de répression, etc. Je pense que c'est faux. Après, ensuite, il faut voir aussi la vitalité des mouvements sociaux. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, il y a peut-être moins de mouvements sociaux, mais jusqu'à la crise du Covid, souvenez-vous, il y avait des grands mouvements féministes pour le climat qui sont d'ailleurs en train de reprendre, contre les violences policières, le mouvement des retraites aussi qui a été très fort avec plein de façons de se mobiliser. Voilà, donc je pense que, et des nouvelles générations aussi qui s'impliquent, donc je pense que, la gauche pour moi, c'est pas que celle des partis politiques, c'est aussi celle des mouvements sociaux. Donc pour moi, il y a beaucoup de nos idées qui sont majoritaires, il y a des mouvements sociaux qui ont une certaine vitalité et qui portent ces idées-là. Il y a peut-être un paradoxe, parce qu'effectivement, dans les sondages, la gauche apparaît faible ou divisé, mais si je me suis impliquée depuis deux semaines dans cette campagne présidentielle puis législative, c'est que je pense que là on a un moment charnière on a une chance là d'avoir un candidat au second tour, Jean-Luc Mélenchon, puis de gagner il faut combattre cette idée là que la gauche forcément s'il y a pas enfin c'est la mouise, on n'y arrive pas, la gauche est pathétique, c'est la gauche la plus conne du monde, etc. En fait, on ne fait que nourrir. Enfin, c'est ce que j'appelle une rhétorique performative, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à force de rabâcher cette idée-là, effectivement, tout le monde a l'impression qu'elle est faible et ça décourage les gens de voter. Donc, il faut faire en sorte que tous les gens qui pensent à gauche revotent à gauche. Et c'est le défi qu'on se donne dans le Parlement de l'Union Populaire et dans ce mouvement de l'Union Populaire, redonner envie de voter à gauche pour une vraie gauche et qui ne soit pas la gauche j'ai envie de dire, entre guillemets, la gauche de François Hollande qui a galvaudé les valeurs de gauche, avec la déchéance de nationalité, par exemple, ou avec la loi travail. Moi, je pense qu'on redonnera, la gauche sera à nouveau forte si on a une vraie gauche, qui ne soit pas une gauche qui transige avec avec ses valeurs.
Vous avez le sentiment que si les habitants des quartiers populaires votaient au premier tour de l'élection présidentielle, il pourrait y avoir une bonne surprise pour Jean-Luc Mélenchon ?
Complètement, mais d'ailleurs c'est aussi ce que montrent les sondages, c'est-à-dire que dès qu'on diminue le taux d'abstention, en fait c'est mieux pour, ça donne plus de poids au candidat Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il a un discours qui porte dans les quartiers populaires, et c'est justement une des raisons pour lesquelles moi aussi je rejoins l'Union Populaire, hein, c'est que je pense que c'est un des rares candidats qui arrive à parler aux classes populaires, c'était le cas il y a 5 ans, et il faut que ce soit le cas cette fois-ci, bien davantage encore que maintenant, donc on a encore quelques mois pour le faire, mais évidemment quand on met en avant la hausse du SMIC, la hausse des minima sociaux, le fait qu'il y ait davantage de services publics sur l'ensemble du territoire, y compris dans les quartiers défavorisés, qu'il y ait une meilleure égalité réelle, et je rappelle aussi que Jean-Luc Mélenchon c'est un des rares leaders de gauche à ne pas s'être rendu au mois de mai à l'appel de certains syndicats de policiers sur une manifestation sur des mots d'ordre ultra sécuritaires à côté des fachos. Voilà, c'est le seul qui n'est pas, enfin c'est un des seuls, pardon, leaders de parti, voilà, qui n'est pas allé manifester ce jour-là. Et je crois que c'est très important, c'est qu'on a un candidat qui est aussi cohérent avec des valeurs essentielles que sont les valeurs de liberté publique et d'égalité réelle entre toutes et tous.
Aurélie, trouvée pour lutter contre les inégalités dans le monde du travail, est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura les moyens de lutter à la fois contre les directives européennes et les traités commerciaux, mais aussi contre les mastodontes que sont Google ou Amazon, par exemple? Ce sont vos adversaires, vous qui êtes une altermondialiste.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une autre raison pour laquelle je rejoins l'Union Populaire, c'est que c'est un candidat qui à la fois a les chances d'aller au second tour, voire de gagner, mais c'est en plus un candidat qui assume, si nécessaire, je dis bien si nécessaire, la désobéissance vis-à-vis des règles européennes. Et en l'occurrence, oui, et des règles du droit commercial international. Parce qu'effectivement, si nous voulons vraiment nous affronter aux immenses intérêts des multinationales du type les GAFA, eh bien il faudra il faudra être ferme et y compris accepter de désobéir à certains traités commerciaux, à certains traités de libre-échange qui font primer les droits de ces multinationales là. Donc c'est vrai que le programme de l'avenir en commun pose des bases qui permettent de se confronter, de faire par exemple de vraiment lutter contre l'évasion fiscale par l'idée par exemple d'une taxation unitaire et mondiale sur les multinationales en fonction de leur activité réelle dans chaque pays, par exemple. Ça va se demander effectivement une bataille très forte contre les intérêts de ces multinationales. Mais justement, le fait d'assumer d'aller jusqu'au bout, y compris de désobéir au traité de libre-échange pour ça, et voire à des règles de l'Union européenne, de l'assumer, je pense que c'est essentiel pour se dire que, eh bien, nous pourrons faire passer toutes ces mesures de rupture écologique et sociale.
Aurélie Trouvé, quelle est pour vous la mesure la plus forte de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait changer concrètement la vie des gens, notamment ceux qui ont de petits revenus, qui ont du mal à se loger ou à se soigner?
Déjà, la hausse du SMIC de 200 euros net, je crois que ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas décemment avec 1250 euros net par mois, c'est pas vrai. Surtout, alors en plus, quand on est en région parisienne, mais on ne peut pas vivre décemment. Aujourd'hui, avec ce salaire-là, c'est pas possible. Donc déjà, la hausse du SMIC, pour moi, c'est essentiel. Mais, et c'est pour ça que c'est compliqué de prendre une seule mesure, il faut aussi que chacun puisse avoir accès au moins au SMIC. Ça veut dire qu'il faut vraiment viser le plein emploi. Et cette idée aussi de la garantie de l'emploi, d'un emploi digne pour toutes et tous, pour tous ceux qui le souhaitent, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, par toute une série de mesures qui mèneraient à cette garantie de l'emploi, garantie par l'État, ça c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que du coup, tout le monde en âge de travailler pourrait bénéficier de ce SMIC qui ne serait pas non plus à 1250 mais à 1450 euros. Ça me paraît essentiel et que tout le monde puisse avoir accès à un travail digne. Voilà, parce que le chômage aujourd'hui est une plaie et il faut arrêter de penser que comme le dit Macron, que on a que à traverser la route pour avoir un emploi. C'est totalement faux. Il y a aujourd'hui 6 millions de chômeurs pour À peu près, 100, je crois que c'est 150 000 emplois disponibles. Voilà. Donc, arrêtons de penser que tout le monde peut avoir un emploi aujourd'hui, c'est complètement faux. Et, ça, et d'ailleurs, c'est en particulier les quartiers populaires, pour toute une série de raisons, qui subissent ce chômage-là.
Comment convaincre les gens de gauche de ne pas voter pour Emmanuel Macron, Aurélie Trouvé ? Chez certains électeurs de gauche, il vaut mieux réélire le président sortant plutôt que d'avoir la droite avec Valérie Pécresse ou alors l'extrême droite avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour.
Il faut se sortir de la tête qu'Emmanuel Macron, c'est ni gauche ni droite. Emmanuel Macron, c'est la droite décomplexée, la droite des riches. Ça a été montré par de multiples instituts. C'est politique. Le résultat de ces politiques, c'est que ça a servi avant tout et énormément les ultra-riches. Toutes les calculs sont clairs là-dessus. Toutes ces mesures, notamment la suppression de l'impôt sur la fortune ou encore le plafonnement de l'impôt sur les revenus financiers, toutes ces mesures ont visé une chose, de servir les plus riches et de servir ceux qui détiennent les capitaux. Voilà. Et donc évidemment, ça se fait au détriment des classes moyennes et précaires. La deuxième raison, c'est l'inaction écologique, l'irresponsabilité écologique de ce gouvernement qui, rappelons-le, a été... c'est que la France a été condamnée récemment, il y a quelques semaines, parce qu'elle ne respecte pas ses engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est déjà deux énormes raisons pour lesquelles il ne faut pas voter pour ce président des riches, qui en plus, pour moi, une droite des riches qui est aussi une droite identitaire. Souvenez-vous de Gérald Darmanin qui dit à Marine Le Pen qui l'accuse de mollesse envers l'islam. Voilà. Donc c'est en plus une droite qui a fait voter la loi sur la sécurité globale, la loi sur les séparatistes, tout un tas de lois qui stigmatisent une partie de la population, qui divisent la population par le racisme, qui instigue finalement du racisme dans la population. Et pourquoi ? Ben parce qu'en fait, plus c'est une politique de casse écologique et sociale, plus ils ont besoin de faire taire les voix qui s'opposent à lui. D'où la répression des mouvements sociaux, d'où la répression dans les quartiers populaires, d'où la loi sur la sécurité globale pour augmenter cette répression, d'où toute cette politique de division de la population par un racisme ambiant qu'alimente le gouvernement. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je crois qu'il est urgent, il ne faut pas se résigner à 50 plus, ni de droite ni d'extrême droite, et dans cette droite, il y a évidemment Emmanuel Macron.
Merci Aurélie Trouvé. Merci. Je rappelle que vous êtes présidente du Parlement de l'Union Populaire, ancienne porte-parole d'Attac, enseignante chercheuse et auteure du livre Le Bloc Arc-en-Ciel aux éditions La Découverte. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.